Bienvenue sur les chemins du vendredi où chaque semaine nous donnons la parole à ceux qui font vivre la philosophie. Philosophe, est-ce un métier? Est-ce une vocation? Comment se fabriquent les idées? Et quel rôle les philosophes doivent-ils jouer dans la cité? Mon invité aujourd'hui a rencontré la philosophie par la littérature, puis par Rousseau. Agrégé et docteur en philosophie, il renonce, après plusieurs années d'enseignement, à l'enseignement à plein temps afin de se consacrer à l'écriture et à la recherche. Il fuit les groupes et les chapelles. Il est l'auteur d'une trentaine de livres sur des sujets aussi variés que l'éthique, l'amour, Picasso, l'enfance et la justice, qui sont autant de façons de s'interroger sur la possibilité pour l'homme de devenir sujet. Il aime Lacan, Romain Gary et Serge Gainsbourg et s'appelle Paul Audy. Bonjour à vous Paul Audy.
Bonjour Adèle.
Avant de poser les questions, avant les pourquoi, commençons par les parce que.
Parce que t'as les yeux bleus, que tes cheveux s'amusent à défier le soleil par leur éclat de feu. Parce que tu as 20 ans, que tu croques à la vie comme un fruit vermeil que l'on cueille en riant. Tu te crois tout permis et n'en fais qu'à ta tête. Désolé un instant, prêt à recommencer. Tu joues avec mon cœur comme une enfant gâtée qui réclame un joujou pour le réduire en miettes. Parce que j'ai trop d'amour, tu viens voler mes nuits du fond de mon sommeil et fais pleurer mes jours. Parce que je n'ai que toi, mon cœur est mon seul maître, et maître de mon cœur, l'amour nous fait la loi. Parce que tu vis en moi et que rien ne remplace les instants de bonheur que je prends dans tes bras. Je ne me soucierai ni de Dieu ni des hommes. Je suis prêt à mourir si tu mourrais un jour. Car la mort n'est qu'un jeu comparé à l'amour. Et la vie n'est plus rien sans l'amour qu'elle nous donne. Parce que je suis au seuil d'un amour éternel, je voudrais que mon cœur ne porte pas le deuil.
Quelle chanson, Paul Audy ?
Effectivement, c'est une chanson absolument extraordinaire et l'interprétation aussi est extraordinaire. C'est une chanson de Charles Aznavour et si vous l'entendez chantée par Charles Aznavour, vous serez très déçu. En revanche, quand on l'écoute chantée par Gainsbourg, toute la beauté de la chanson ressort. Et cette chanson, j'ai proposé qu'on l'écoute parce que j'ai placé mon travail philosophique pendant un long moment sous le chef de l'amour et je m'en suis occupé, si vous voulez, de manière frontale, alors que c'est un des sujets mais les plus difficiles à aborder. Alors voilà, j'avais juste envie de dire que peut-être que ce que j'ai essayé d'écrire au sujet de l'amour rejoint ce vers de la chanson « Et la vie n'est plus rien sans l'amour qu'elle nous donne ».
Je remarque que le philosophe que vous êtes, qui, si on en croit la définition générale, est plutôt familier des « pourquoi », aime particulièrement une chanson qui dit « parce que », comme si la chanson apportait les réponses que la philosophie ne trouvait pas.
Mais le paradoxe, voyez-vous, c'est qu'il n'y a pas de « parce que » quand il s'agit de l'amour. Il y a beaucoup de « parce que » quand on philosophe, évidemment. On est même à la recherche, comme un chasseur de papillons, si vous voulez, de tous les « parce que l'on peut attraper dans son filet. Mais justement, avec l'amour, il n'y a pas de « parce que ». Il y a ce que Jean Kelevitch appelait « la raison sans raison de l'amour ». Il n'y a pas de fondement, il n'y a pas de raison, il y a quelque chose d'énigmatique qui surgit et qui fait événement.
Mais pour vous, la philosophie est une affaire d'amour, une histoire d'amour?
Ben, vous savez que le mot aimer est dans le mot philosophie, et donc forcément le philosophe a affaire avec quelque chose qui est de l'ordre de l'attirance, du désir, de la séduction aussi, et évidemment, après toutes ces qualités que je viens de nommer, il y a l'amour. Alors, l'amour de la sagesse, c'est un amour très particulier, puisque c'est un amour qui se tend vers un horizon, qui recule à mesure que l'on avance. Il n'empêche qu'il y a quelque chose de l'ordre du lien qui se produit avec la philosophie, lien à la fois qui se noue entre les hommes, et puis lien par rapport à une forme de fidélité où le philosophe se sent appelé à demeurer fidèle à la ligne d'une pensée. Parce que la philosophie, c'est ça finalement, c'est une seule question qui surgit, on ne sait pas véritablement pourquoi et comment, et la vie entière se passe à dérouler le fil de cette question. Alors, ça peut prendre plusieurs formes, évidemment, mais finalement, je ne peux pas concevoir que l'œuvre d'un philosophe soit une œuvre éclatée, comme si, après avoir occupé une pièce dans une maison, ou même une maison particulière, il refermerait la porte pour aller habiter ailleurs. Non, en fait, il habite un même espace, et cet espace, il passe sa vie à l'observer, à le cartographier, à l'identifier.
Vous dites « il », le philosophe, oui, mais est-ce que vous vous présentez comme philosophe ?
Écoutez, oui, je me présente comme tel.
Mais qu'est-ce que ça veut dire,
c'est un mot qui est lourd à porter, si vous voulez, dans l'interaction avec les autres. Il peut même sembler ridicule de se prétendre philosophe. Et pour autant, dans la philosophie, justement, il y a quelque chose qui prémunit du ridicule, c'est le mot de philia, c'est cette tension vers quelque chose. Alors tant qu'on est dans la tension et qu'on n'est pas sage, eh bien on peut sans doute échapper au ridicule. Je ne me dirai jamais sage, ça certainement pas, sophone, comme disent les Grecs, jamais. Mais en revanche, cette tension, elle me constitue, elle m'habite et je l'habite. Les deux.
Vous vous souvenez de votre première rencontre avec la philosophie ?
Oui, enfin je m'en souviens de manière assez vague, si vous voulez. Ce que je peux vous dire, c'est que c'est une rencontre tardive. Je me suis véritablement intéressé à la philosophie lorsque j'avais déjà 19 ans. Je faisais des études qui devaient me conduire à passer un diplôme de lettres, parce que ma grande passion était la littérature. Je me destinais même dans ma tête à devenir romancier. Et puis, ce qui s'est passé, c'est que je me suis senti très très bien avec la philosophie, et sans doute parce que je me posais des questions très graves à l'époque, et que j'avais besoin de cette nourriture-là. Je pense qu'en règle générale, si vous voulez, on s'intéresse à la philosophie, on devient philosophe, non pas pour des raisons, entre guillemets, culturelles. C'est pas parce que c'est un domaine, c'est un secteur de la vie de l'esprit qui attire. C'est parce qu'on a rencontré une certaine fracture, une faille, quelque chose de douloureux, quelque chose qui remet en question la vie elle-même. Et à ce moment-là, évidemment, la philosophie vous tend les bras parce qu'elle vous permet d'énoncer justement la question qui met en question votre vie même.
Et quelle est cette question pour vous ?
C'est très difficile à mon âge, 30 ans ou 40 ans après, de remonter le fil de cette aventure. Ce que je peux vous dire, c'est que je crois que j'étais hanté par l'incapacité de me définir en termes d'identité. Et je crois que la philosophie est venue, non pas me donner la réponse à cette question de l'identité, mais elle m'a permis justement de rester dans la question. parce qu'elle pose des questions, la philosophie, plus qu'elle ne répond à des questions. Et je me suis interrogé sur ce que c'était qu'une identité et pourquoi l'être humain a tant besoin de trouver une identité. Il est en permanence dans le processus d'identification. Et ça, je crois que ça a commencé au moment de mon adolescence. J'aspirais en fait à devenir quelqu'un que je n'étais pas. Et sans doute, j'étais traversé par un courant de désespoir très profond. Le désespoir étant précisément cette volonté d'être un autre que soi-même. Et ça m'a tellement tourmenté, ça m'a tellement habité que finalement, lorsque j'ai essayé d'élaborer une philosophie de la subjectivité, j'y ai inscrit le désespoir comme une des composantes fondamentales. Le fait de ne pas vouloir être soi.
Mais ça veut dire que la philosophie était une forme de protection ou au contraire d'exutoire ?
Pas d'exutoire, mais la philosophie, par son exercice, par sa pratique, elle me permettait de conjurer certaines angoisses et sans doute de refouler très loin un bon nombre de fantômes. On peuple finalement l'esprit par des armatures très solides et ça s'appelle des concepts. On pense que avec le concept on peut saisir quelque chose et on le saisit un temps, c'est vrai. Mais en même temps, si l'on est honnête avec soi-même et si l'on est honnête avec ce qu'est le travail philosophique, eh bien, on s'aperçoit que ce qu'on a saisi un temps, cela échappe et qu'il faut en quelque sorte reprendre la mer alors même que l'on pensait être arrivé au port.
Parmi les personnes et les voix qui ont compté pour vous dans votre parcours philosophique, on entend celle-ci.
Il y a sans doute une histoire du monde à laquelle nous sommes liés et qui nous oblige à certains moments à nous engager, comme on disait il y a une vingtaine ou une trentaine d'années. Mais que cette histoire du monde, si importante soit-elle, est tout de même seconde par rapport à la véritable histoire qui est l'histoire de l'individu, qui est une sorte de trajet propre et personnel que chacun doit faire vers lui-même ou vers une propre appréhension de l'être plus intense. Et il me semble que ce qu'on peut demander à l'histoire du monde, c'est de ne pas empêcher les êtres de devenir eux-mêmes, c'est-à-dire d'accomplir cette histoire personnelle.
Qui venons-nous d'écouter, Paul Audy ?
On vient d'écouter Michel Henry, qui est un philosophe que j'ai bien connu, qui est mort en 2003 et qui a écrit une œuvre considérable. Je l'ai rencontré après avoir soutenu ma thèse. Ce qui s'est passé, c'est que je m'étais engagé à faire une thèse sur Jean-Jacques Rousseau et sur la politique de Jean-Jacques Rousseau. Je sentais que le contrat social était compatible avec un déploiement phénoménologique. Donc, j'ai essayé, avec acharnement, de plaquer une grille de lecture phénoménologique sur le contrat social. Et pendant 2 ans, je n'y arrivais pas. Alors c'était curieux, c'était juste une intuition, quelque chose que je pressentais, mais je n'arrivais pas à développer quoi que ce soit. Et par hasard, je suis tombé dans une librairie sur un livre de Michel Henry, qui est son grand livre des années 60, qui s'appelle L'essence de la manifestation. Et En lisant les premières pages de ce livre, j'ai senti que là, il y avait peut-être quelque chose qui me permettrait d'entrer dans des recoins de la pensée de Rousseau qui n'avaient pas été explorés. À ce moment-là, j'ai immédiatement changé de sujet et j'ai passé de la politique de Rousseau à l'éthique de Rousseau, avec cet outil tout à fait extraordinaire qui était la phénoménologie de l'affectivité que Michel Henry avait développée. Alors, je ne voulais pas être trop influencé non plus par la pensée d'Henri, et donc je me suis dit à l'époque que je ne le rencontrerai pas avant d'avoir soutenu ma thèse, ce que j'ai fait. Mmh. Et c'est au lendemain de la soutenance que je le lui ai déposé. Et il m'a répondu, il m'a écrit, et j'ai été le rencontrer. Et est née une amitié très belle, qui est une des grandes richesses de ma vie. Et il a été atteint du cancer quelques années plus tard, et je l'ai beaucoup pleuré.
Vous le considérez comme un maître pour vous ? Vous croyez même à,
pas vraiment, parce que...
à l'idée de maître en philosophie ?
Non, alors justement, je n'ai pas connu de maître, je n'ai pas eu de maître. J'ai eu sans doute des moments de grande influence, parce qu'il y a des pensées lumineuses qui vous traversent et qui éclairent justement tout ce qui était obscur.
Vous pensez à qui d'autre, par exemple ?
Personne de vivant. Mais évidemment, dans la longue histoire de la philosophie, nombreux sont les penseurs qui ont eu une influence considérable sur moi. Et d'ailleurs, ce sont très souvent des auteurs sur lesquels j'ai écrit des livres. Je pense à deux auteurs dont l'un détestait l'autre, c'est Rousseau et Nietzsche. Nietzsche ne supportait pas Rousseau. Et vous voyez, moi, je me suis senti concerné par la pensée des deux penseurs, et j'ai essayé même de les croiser en donnant naissance à quelque chose dans lequel ils ne se reconnaîtraient ni l'un ni l'autre. Mais enfin, ça a été une des grandes aventures de ma vie, c'est d'essayer de construire un pont entre ces deux très grands philosophes.
Et là, on retrouve cette dualité que vous décriviez dans votre rapport à vous-même, dans la quête de la philosophie et de l'identité. Être autre chose que soi, c'est aussi essayer de réconcilier deux contraires. Il y a quand même toujours ce même geste d'essayer de dépasser une entité pour aller vers autre chose.
C'est vrai, je m'aperçois en vous écoutant que c'est très souvent ce que j'ai essayé de faire. C'est-à-dire faire que des ennemis deviennent des amis sous mon égide, sous ma tutelle, parce que justement, en m'occupant d'eux, en les invitant dans ma maison, eh bien, il n'y avait plus aucune raison de se faire la guerre. C'est un peu ce que j'ai fait avec pas mal de penseurs.
Oui. Et notamment avec Romain Gary.
Lorsqu'une rue principale dans une ville à 120 km de longueur, il est en effet assez difficile d'avoir des contacts humains étroits, n'est-ce pas ? Ce qui caractérise Los Angeles, c'est pratiquement il n'y a pas un endroit pour s'asseoir. On roule en voiture, vous comprenez ? Et puis autre chose, c'est que dans cette métropole immense, l'individu, ce n'est pas l'homme, c'est la voiture automobile. Tout est bâti autour de l'auto, la maison autour du garage. La ville autour du parking, il n'y a pas un café. Moi, lorsque je viens à Paris, je dois dire j'ai une telle soif. Ce n'est pas que j'ai envie d'aller au café pour voir Jean-Paul Sartre ou Camus, mais pour voir un croissant, un café crème, vous comprenez, quelque chose de familier, c'est un univers.
Romain Gary, le 6 novembre 1958, dans l'émission Le Masque et la Plume, Romain Gary qui vit aux États-Unis à ce moment-là et qui évoque avec nostalgie les habitudes des Parisiens. Lorsque vous parliez de votre propre rapport à la philosophie, Paul Audy, en disant cette volonté d'être autre que vous-même, j'ai pensé à ce titre de Gary, d'ailleurs un des titres de votre livre que vous lui avez consacré, « Je me suis toujours été un autre », Le Paradis de Romain Gary, publié en 2007. Là encore, c'est un auteur qui semble très proche de votre propre perception, de votre travail en tout cas.
Écoutez, il est à la fois extrêmement proche et très éloigné, mais c'est certainement... vous savez que Romain Gary disait de De Gaulle qu'il était l'homme de sa vie. Bon, eh bien moi je peux dire que Romain Gary, ça a été l'homme de ma vie au sens où je l'ai aimé pour ce qu'il était, pour ce qu'il a osé, pour ce qu'il est devenu. J'ai aimé cette trajectoire extraordinairement rectiligne, contrairement à ce qu'on imagine.
Parce que Romain Gary, je le rappelle, est aussi celui qui a écrit des romans sous le nom de Émile Ajar et qui a monté une sorte d'imposture. Et pendant longtemps, on ne savait pas que c'était une seule et même personne.
C'est vrai, il a pris plusieurs masques. Mais vous savez, il n'était pas sûr d'avoir un visage parfaitement fixe et défini. Donc, est-ce que ce sont des masques? Est-ce que c'est finalement ce que nous affichons, ce que nous montrons aux autres? Quoi qu'il en soit, l'œuvre de Romain Gary, elle m'a concerné au plus profond et je lui ai consacré 3 livres. Donc ça fait beaucoup.
Ça fait trop? Parce que vous en parlez au passé.
Écoutez,
vous dites, ça a été l'homme
non,
de ma vie.
Non, mais parce que j'ai décidé à un moment donné de ne plus en parler. Je pensais qu'il y avait quelque chose qui devait cesser. J'ai écrit dans mon dernier livre un texte sur lui. Bon, je crois que je ne le ferai plus. Je suis très heureux de ce qui arrive à son œuvre. Il est entré dans la Pléiade cette année. On le célèbre comme un grand écrivain. Et je peux vous avouer que lorsque je me suis intéressé à lui à la fin des années 90 et que au sein de l'université où j'étais encore, j'avais essayé de monter un colloque Romain Gary, on me riait au nez et même on me disait que c'était un auteur de seconde zone, alors que il est devenu un auteur reconnu et non pas reconnu uniquement parce qu'il a eu du succès, mais parce que c'est un très grand inventeur de langue.
Mais qu'est-ce qui vous pesait dans votre amour pour lui? Vous parlez d'homme de votre vie et après vous dites j'ai dû cesser. Puis on décide pas de plus aimer quelqu'un.
Ah non, je n'ai jamais dit que je ne l'aimais plus. J'ai dit que je n'écrivais plus sur lui. Non, je l'aime toujours. Parce que il faut à un moment donné prendre d'autres chemins, expérimenter d'autres parcours. Il faut aussi savoir qu'on s'est suffisamment nourri de cet apport pour que on puisse justement aller à la rencontre d'autres figures stimulantes.
Il faut, c'est le philosophe qui veut continuer
oui,
à écrire.
Oui, absolument. Je pense que c'est au nom de son désir de création qu'il faut parfois changer de pays, bien sûr. Et même peut-être, mais là j'en suis bien incapable, changer de langue.
Ah excellente transition, parce que vous nous conduisez, on reste dans le même pays, mais vers une autre personne qui a beaucoup compté pour vous. Et je me demande comment la cohabitation s'est passée.
Pour cette jouissance de l'autre parasexué, qui n'existe pas, ne pourrait, ne saurait même exister que par l'intermédiaire de la parole d'amour notamment, qui est bien la chose, je dois dire, la plus paradoxale et la plus étonnante, et dont il est évidemment tout à fait sensible et compréhensible, que Dieu me conseille de n'aimer que son prochain, et non pas du tout de se limiter à sa prochaine, car si on allait à sa prochaine, on irait tout simplement à l'échec. Hein.
Jacques Lacan sur France Culture en 1974, que vous écoutez aujourd'hui en 2019 sur les chemins de la philosophie, aujourd'hui en compagnie de Paul Audy. Quelle place a joué Jacques Lacan dans votre travail? On retrouve l'amour ici, hein, Paul Audy.
Bien sûr qu'on retrouve l'amour, et c'est la raison d'ailleurs pour laquelle je me suis intéressé à Jacques Lacan et j'ai même consacré des nuits entières, si vous voulez, à essayer de comprendre ce dont il s'agissait.
On en est tous là.
Oui, on en est tous là et moi-même, je ne suis pas sûr justement d'avoir tout compris, mais ce que j'ai compris, en tout cas, a suffi, si vous voulez, pour que j'opère un déplacement considérable dans mon chemin de pensée. Pour la raison que l'on vient d'entendre, d'ailleurs, c'est très curieux que vous ayez choisi cet extrait dans lequel j'ai entendu Lacan dire « La parole d'amour est la chose la plus paradoxale et la plus étonnante qui soit ». Et c'est exactement à ce titre-là, si vous voulez, que je me suis intéressé à ce qu'il en disait. Mmh. Parce que ce qu'il dit de l'amour, est absolument considérable. Et c'est pour ça que j'ai essayé d'apprendre même sa langue, parce qu'il a inventé une langue dans la langue. Et cette langue, elle est impossible à pratiquer d'ailleurs, si l'on n'est pas Jacques Lacan soi-même. Mais j'ai essayé en tout cas de l'entendre comme il souhaitait être entendu. Je ne sais pas si j'ai bien fait, mais en tout cas, ça m'a permis, si vous voulez, d'entrer dans la question de l'amour à travers celle du désir. Et de ce point de vue-là, je lui suis extrêmement reconnaissant. C'est aussi Jacques Lacan, quelqu'un par rapport à qui j'avais énormément de prévention. Toute ma formation philosophique m'avait tenu à l'écart de sa pensée, non pas à l'écart de la psychanalyse, loin de là, elle a toujours compté pour moi, mais de Lacan singulièrement. Et ce qui m'a séduit tardivement, c'est la singularité de Lacan. C'est l'exigence de singularité qu'il y avait derrière sa prise de parole. Si vous jetez un œil sur les auteurs que je ressasse, sur lesquels je ne cesse de revenir, ils ont tous cette exigence de singularité. Ils se détachent de la foule. Ils ne veulent pas appartenir au sens intransitif de ce verbe. Ils sont en quelque sorte des solitaires amoureux de l'universel.
Mais là, vous parlez de vous.
Oh, j'aimerais bien, mais non. Moi, je ne sais pas. Enfin, c'est pas à moi de le dire.
Dans votre travail, dans votre parcours, il y a ce désir, me semble-t-il, soit d'affirmer une singularité, en tout cas de la rechercher, mais vous prenez le parti de quitter ou de prendre vos distances avec l'université, vous revendiquez aussi cette non-appartenance à un groupe, à une communauté. Vous voulez occuper cette place singulière ?
Je ne sais pas si je le veux, mais je ne peux pas faire autrement. J'ai pas le choix, si vous voulez. Ça s'est passé comme ça, et je ne peux pas vous dire que c'est une décision qui a été prise, mûrement réfléchie, un programme qui a été appliqué, loin de là. C'est tout le contraire. Mais force est de reconnaître aujourd'hui que j'ai toujours essayé de faire un pas de côté dès lors que je me sentais un peu trop rejoint.
Et ce pas de côté, vous essayez de le faire au sein de votre travail. Je l'ai dit, vous êtes l'auteur d'une trentaine de livres, un peu plus même. Et votre dernier s'appelle Curriculum, il est paru aux éditions Verdier. Et on trouve au tout début, la première page du livre, on l'ouvre et on trouve « Je n'écris pas, je m'obstine ». C'est ça votre rapport à l'écriture et c'est pour ça que vous continuez à écrire, c'est une obstination ?
C'est un aveu de faiblesse en même temps, parce que
c'est une citation d'Edmond Jabès, hein,
oui,
je précise.
Oui. Je ne me considère pas comme un écrivain, alors même que j'ai écrit 30 livres, parce que je ne suis pas sûr d'avoir ce talent-là, mais j'ai quand même écrit, et je le rattache à une forme d'obstination qui est d'essayer de toucher ce point qui me paraît vital, qui me paraît aussi salutaire, qui est ce point où le bien et le beau peuvent se retrouver, s'accorder, s'harmoniser. C'est une conjonction, si vous voulez, de tous les transcendantaux de la philosophie que je recherche. Le vrai, le bien et le beau...
Un monde idéal.
Enfin, c'est un monde idéal, non, mais en tout cas, quelque chose qui est de l'ordre de la sumploquée, du mélange, de l'entrelacement, de l'entrecroisement de ces notions, le beau, le bien et le vrai. Et c'est un peu le territoire que j'assigne à la philosophie, et même la mission que je lui assigne. C'est de pouvoir d'abord soutenir par la pensée l'existence même de ces transcendantaux, c'est-à-dire affirmer qu'il y a du vrai, qu'il y a du beau et qu'il y a du bien, et faire que ces trois instances, que ces trois dimensions puissent se recouper. Et le seul endroit où elles puissent se recouper, c'est dans l'existence de l'homme. C'est son existence qui les fait se recouper. Alors la question est de savoir, mais de quelle existence on parle ? Elle est faite de quoi, cette existence qui permet le recoupement du beau, du bien et du vrai ? Je crois que tous les livres que j'ai écrits essayent de répondre à cette question. Alors parfois, en se mettant dans la peau de Jean-Jacques Rousseau, parfois en se mettant dans la peau de Nietzsche, parfois en se mettant, comme vous l'avez rappelé, dans la peau de Romain Gary, mais aussi bien de Pablo Picasso,
ou de Mallarmé.
C'est ça qui m'intéresse. C'est cet entrelacement. Non pas pour seulement le comprendre comme un objet de pensée, mais pour dire à quel point il est non seulement possible, mais il est nécessaire.
Mais alors de quoi, je vous retourne la question, de quoi cette existence est-elle faite, cette existence ? Vous dites qu'il faut s'interroger sur la nature de cette existence ou peuvent s'entrecroiser le beau, le bien et le vrai ?
Alors, je n'ai trouvé à ce jour qu'une réponse à la question immense que vous venez de poser. Elle est vraiment terrible. Vous vous rendez pas compte à quel point elle est terrible, cette question.
Si vous avez passé 30 ouvrages à essayer d'y répondre, je me doute bien qu'elle est compliquée.
Oui, d'accord. C'est dans le verbe créer que j'ai essayé d'approcher cette unité des trois instances. L'acte de créer est un acte extrêmement singulier qui, en tant que tel, singularise celui qui agit en tant que créateur. Et la création, elle a partie liée à la fois avec le vrai, le beau et le bien. Voilà comment je vous répondrai de manière succincte. Il faudrait peut-être beaucoup de temps pour vous dire cela.
Écrire de la philosophie, c'est créer.
Alors, il y a une dimension de création dans le travail philosophique. Vous savez que Gilles Deleuze définissait même la philosophie comme l'art de créer des concepts. Je ne sais pas véritablement si cette définition tient la route, mais en tout cas, il y a une part de création inévitable dans la philosophie. Et cette part inévitable, elle se situe essentiellement non pas au niveau de la réponse à la question, mais dans la manière dont une question se transforme en un problème, en une problématique. Les grands philosophes se sont emparés de questions qui sont celles, évidemment, qui traversent l'esprit de n'importe quel être humain. Mais ils deviennent ces philosophes qu'ils sont en élaborant un problème tout à fait singulier qui leur est propre à partir de la question. Et c'est là qu'ils deviennent véritablement créateurs. Ils créent la problématisation liée à la question, et cette problématisation, elle est uniquement le fait de tel ou tel philosophe. Il est évident que, je prends un exemple très simple, qu'est-ce que c'est que l'État ? C'est une question de philosophie politique. Le nombre de philosophes qui se sont posés cette question est véritablement immense. Mais voyez comment Hobbes s'est emparé de cette question. Et voyez comment Rousseau s'est emparé de cette même question. C'est là que Hobbes diffère de Rousseau. C'est là que Rousseau n'est pas du tout Hobbes. Lorsque, par exemple, Hobbes raccorde la question « qu'est-ce que l'État ?» à l'existence de la peur. Ça, c'est tout à fait singulier. C'est tout à fait nouveau. Il crée un problème tel qu'on ne l'avait pas vu auparavant.
Enfin, il le nomme.
Il nomme un problème qui existe depuis
la nuit des temps, mais qui n'avait jamais été nommé.
Oui, mais le fait d'élaborer l'articulation, si vous voulez, entre la question et la réponse, à travers justement la découverte de cette dimension qui est la peur, ça, c'est là qu'on touche à la part créative de l'acte de pensée. On pourrait faire le même exercice avec d'autres penseurs. On pourrait faire le même exercice, par exemple, avec le contrat social de Rousseau. Ce que Rousseau découvre et qui est propre à lui, c'est que
pour justement qu'il y ait existence politique de l'être humain, il faut que l'être humain abandonne quelque chose de lui-même. Et l'idée justement de jouer le gain de quelque chose à partir de l'abandon de quelque chose ou de la perte de quelque chose, ça c'est quelque chose qui n'avait jamais été posé en ces termes-là auparavant. Et c'est en ce sens-là que Rousseau recrée la question « qu'est-ce que l'État ?» à partir d'une considération qui est propre à lui.
Puisque vous prenez l'exemple de l'État, on va essayer de comprendre comment justement les philosophes que vous citez et vous-même, Pelody, comment ou plutôt quel rôle pouvez-vous jouer dans un État? Est-ce qu'il y a-t-il une fonction, un rôle politique à jouer de la part des philosophes?
La capitale libanaise vit sa cinquième journée de mobilisation. Sur les réseaux sociaux, les appels à manifester se multiplient.
Nous ne sommes pas descendus dans la rue pour rien, nous ne bloquons pas les routes pour rien. Notre peuple a beaucoup souffert, tous les Libanais sont désormais ensemble.
Depuis jeudi, c'est tout le pays qui est secoué par un mouvement de contestation inédit. Au départ mobilisé contre une taxe sur les appels via des applications, taxe abandonnée dans la foulée, les manifestants ont très vite pris pour cible le système politique dans son ensemble. Slogan révolutionnaire, appel à la chute du régime, les protestataires rassemblés par dizaines de milliers dénoncent pêle-mêle la corruption et le clientélisme au sein des élites.
Nous n'allons pas reculer tant que toutes les revendications du peuple ne seront pas entendues. Nos demandes sont légitimes et nous sommes arrivés à un point où le peuple suffoque, à un point de non-retour.
Quand vous écoutez les informations, Paul le dit ici un extrait du journal de France 24 du 21 octobre 2019, que certains événements peuvent vous marquer ou autres, ou plutôt le climat insurrectionnel contemporain qui, c'est ce que vous nous avez dit, hein, vous marque particulièrement, comment est-ce que vous réagissez? Est-ce que vous vous dites qu'en tant que philosophe, vous avez une responsabilité, voire une mission, en tout cas un rôle à jouer dans ce climat? Ou est-ce que vous vous dites ce qui peut vous indigner, vous intéresser, vous inquiéter, concerne une autre partie de vous-même?
Non, je me sens totalement concerné, je me sens appelé même par l'événement lui-même. Pour autant, je ne considère pas que la parole qui est la mienne puisse jouer un rôle quelconque dans le déroulement même de ces événements. Mais je suis attentif à ce qui se passe. Je trouve tout à fait extraordinaire ce climat insurrectionnel que l'on voit dans les démocraties ou les pseudo-démocraties ou les États qui se prétendent démocratiques. Mais il y a le Liban, évidemment, mais il y a le Chili, il y a quelques mois Hong Kong, il y a l'Équateur, il y a eu en France les Gilets jaunes. Ce n'est pas rien ce qui se passe. Et c'est une modalité d'expression et de revendication dont le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle cherche chaque fois une originalité qui contourne les vieux schémas politiques de l'affrontement entre la force et la faiblesse. Je crois que là, il y a quelque chose de tout à fait nouveau. Et ce qui me frappe à titre personnel, de manière très très égoïste, si vous voulez, c'est que j'ai publié au mois d'avril dernier un petit livre qui s'appelle « Réclamer justice ». Et ce petit livre, je l'ai écrit dans un état assez fébrile, je l'ai écrit très vite, je l'ai écrit pour essayer de réfléchir à quelque chose qui m'était apparu à l'occasion d'ailleurs des premières semaines des Gilets jaunes, c'est que réclamer justice souvent bascule dans des actes qui se retournent en quelque sorte contre sa réclamation de justice. C'est-à-dire que réclamer justice implique parfois de faire appel à la violence, et la violence est facteur d'injustice. Elle va provoquer des injustices alors que au nom de la justice, on va commettre des injustices. Et c'est ça qui m'a intéressé. Et donc, j'ai écrit ce petit essai sur la réclamation de justice pour essayer de pointer quelque chose qui me semble important. C'est qu'on ne réclame
pas tant la justice à partir d'un sentiment d'injustice, mais à partir d'un désir éperdu de justice qui est lui-même totalement positif. C'est-à-dire, il ne faut pas éprouver soi-même une injustice pour réclamer de la justice. Et d'ailleurs, c'est ce qui explique que ceux qui n'ont pas subi une injustice puissent se sentir immédiatement solidaires de ceux qui ont subi l'injustice et qui réclament justice, alors que eux-mêmes ne l'ont pas vécu, ils sont à peine concernés, mais ils partagent quelque chose avec l'autre qui est ce désir éperdu de justice. Le paradoxe, c'est que derrière le mot de justice, on a du mal à mettre quelque chose.
Mais justement, dans ce cas précis, là, vous nous parlez de votre effort de conceptualisation, oui. À un moment où en France, oui. En effet, le climat est extrêmement tendu, houleux, avec les manifestations des Gilets jaunes. On a ici, là, on vient d'entendre un extrait, cette fois-ci, de l'insurrection populaire au Liban. Dans quelle mesure ces concepts, vous nous disiez plutôt dans l'émission que les concepts étaient aussi une forme de protection, on arme son esprit pour réfléchir, ne sont pas pour vous aussi une manière de mettre à distance ces événements? Et là, je le dis à dessein, on entend un extrait de l'insurrection populaire au Liban, vous êtes né au Liban, Paul le dit. Dans quelle mesure est-ce que finalement, penser ce qui se passe est une manière de rendre peut-être digeste quelque chose qui sans ça serait trop douloureux?
Écoutez, je crois qu'il y a beaucoup de choses douloureuses liées au Liban dans ma vie. Et j'ai essayé sans doute toute ma vie de mettre cela de côté ou bien très loin de moi pour ne pas souffrir, si vous voulez. Bon, je ne veux pas parler du Liban dans cette émission, mais c'est un pays qui n'aura suscité en moi que colère et honte pendant 55 ans. Donc c'est un problème qui a peut-être nourri la philosophie que j'ai écrite. Mais en même temps, ce qui se passe aujourd'hui est tout à fait intéressant, singulier, fort. Et je ne peux pas rester indifférent à ce qui se passe. Pour autant, je ne vais pas avoir, je n'ai pas du tout l'intention d'écrire des tribunes dans les journaux comme le ferait un intellectuel. Je n'ai pas du tout l'intention de monter sur quelques tribunes que ce soit.
Et pourquoi pas ?
Parce que je pense que d'abord ce serait vain, mais que je ne l'ai jamais fait. J'ai une sorte de réticence presque native pour ce genre de d'exposition. Et je considère que l'intellectuel aujourd'hui, en tout cas, il a un rôle qui n'est pas forcément celui du philosophe, ou que le philosophe n'a pas forcément...
Ah oui, vous distinguez les deux. L'intellectuel peut plus facilement s'engager que le philosophe?
Oui.
Le J'accuse peut être écrit par Zola, mais pas par un philosophe?
Si, il pourrait être écrit par un philosophe, mais en le faisant, il ne fait pas œuvre de philosophie.
Parce que la philosophie ne peut pas s'engager, ne peut pas prendre parole sur la place publique.
Si, elle peut, mais vous savez, je crois que les intellectuels ont montré une telle impuissance depuis des décennies qu'il y a une forme de réticence à vouloir croire que ce qu'on va dire va avoir une action quelconque.
Mais c'est désespérant, ce que
non.
vous dites. C'est-à-dire que les intellectuels et les philosophes doivent rester entre eux,
ça ne m'a jamais empêché,
écrire des livres. Et...
Ça ne m'a jamais empêché d'écrire des livres qui sont lus par des non-philosophes. Et le chemin que ces livres prennent dans la conscience de tel ou tel lecteur, je ne peux pas dire exactement ce qu'il en est, mais en tout cas, j'ose espérer que le livre aura un impact d'éveil sur une conscience qui voudra bien le lire. Je ne ferai sans doute rien de plus. En tout cas, si l'on me demande d'apporter mon soutien à ces insurrections-là, je l'apporterai vivement.
Voilà. Bah, si on vous le demande, c'est comme si la demande n'a pas à être formulée explicitement,
non.
À la limite.
Non, non. Enfin, elle pourrait l'être, mais je ne vais pas aller au-devant d'une certaine participation. Je n'en ferai pas plus. En plus, à cause de tas d'autres raisons qui sont dues au fait que j'ai suffisamment tapé sur l'existence de ce pays pour que je m'abstienne de le célébrer lorsque je peux me dire un peu fier de lui.
On entre avec le reste.
Bonjour, maître.
Maintenant, tu vas me faire plaisir de porter plainte contre ces messieurs pour violation de domicile, effraction et ainsi de suite. Sans compter le temps qu'ils me font perdre, qui pour moi est de l'argent.
Calme-toi, Robert. Ne sois pas absurde.
Moi ? On me confisque mes papiers d'identité, ma voiture. On saisit mes tableaux. On m'interdit de vendre et d'acheter. Plus de bar, plus de tram, plus de restaurant, plus de cinéma, plus rien. Tout interdit. Selon eux, je ne peux plus aller nulle part. Même pas dans les pissotières. Et tout ça parce que le certificat de ma grand-mère n'est pas arrivé. Non, celui-là, vous ne pouvez pas le saisir. Il n'est pas à vendre. Ça n'est pas une marchandise, c'est personnel.
Alors, monsieur le commissaire, vous avez un mandat, bien entendu.
Voilà, maître. Tâchez de lui faire comprendre que ce n'est pas une question personnelle ni du vice de ma part, c'est la loi.
Et je ne discute pas la loi, mais elle ne me concerne pas. Je n'accepte pas d'être pris pour un autre et de payer pour un autre.
Cela ne dépend pas de moi, c'est la préfecture qui nous a signalé votre cas.
Mais c'est moi qui ai signalé le cas à la préfecture. Et ça n'a rien à voir avec moi.
Et voilà comment on retrouve la question de l'identité. Quoi le dit si importante pour vous ici dans vous le film de Joseph Losey, Monsieur Klein, 1976. Alors on est en pleine occupation et Robert Klein, qui est un marchand d'art, a racheté à bas prix des tableaux de maître à des juifs qui tentent de fuir le territoire. Et un matin, enfin, il se découvre un homonyme, un résistant juif, sur lesquels les autorités ont des soupçons, et le film est autour de ce malentendu.
Oui, alors c'est un film exceptionnel, c'est un film extraordinaire, que j'ai vu à de très nombreuses reprises, et qui me hante évidemment parce qu'il ouvre une sorte de chambre d'écho en moi, lié évidemment avec ce que je vous disais au tout début, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est qu'une identité, comment faire avec quelque chose qu'on n'a pas choisi, qu'est-ce que c'est que d'arriver toujours trop tard par rapport à quelque chose qui nous constitue. Voyez, je suis aussi hanté par la question du trop tôt, trop tard. C'est une des questions les plus difficiles à penser en philosophie. Elle implique toute une métaphysique du temps, mais je ne désespère pas un jour de m'y attaquer. Mais en tout cas, trop tôt, trop tard, ce que Lyotard appelait le péché du temps, c'est quelque chose qui est au cœur de ce film. Et ce film, si vous voulez, pourquoi je vous ai invité à en parler, c'est que ce qui se passe dans ce film, c'est que celui qui disait « je n'accepte pas d'être pris pour un autre », on vient de l'entendre, celui qui disait « ça ne me concerne pas », celui qui disait « les autres c'est les autres et moi c'est moi », eh bien, est en quelque sorte entraîné à la fin du film à épouser le destin de ceux qu'il disait être les autres et dont il découvre que c'est exactement le sien. C'est ça qui est extraordinaire. C'est ce rattrapage du destin qui fait qu'on a beau vouloir essayer de renaître autrement, se constituer une autre personnalité, couper les liens avec le passé, essayer de ne pas appartenir à quoi que ce soit, faire d'une identité quelque chose de purement créé, original, ne se soutenant que d'une volonté personnelle, eh bien, il y a un moment où on s'aperçoit que on ne peut pas. On ne peut pas. Il y a quelque chose de plus ancien que soi. Il y a un avant contre lequel on ne peut rien. Et cet avant, si vous voulez, c'est une des structures de la finitude humaine. Bon, nous sommes finis, évidemment, nous sommes tous finis, au sens où nous sommes mortels. Nous avons une durée de vie finie. Mais la philosophie a toujours défini la finitude en termes de mortalité. Il y a une autre finitude, qui est celle que nous n'avons pas décidé de vivre. La vie nous a été donnée. Il faut faire avec. Certains décident de ne pas faire avec, ce qui est déjà une façon de faire avec. Bon,
cette finitude-là, celle de la naissance, avec tout ce qu'elle charrie, tout ce qu'elle emporte derrière elle, est quelque chose avec lequel on doit vivre. Et quand on s'explique avec soi, ce qui est pour moi la définition de l'éthique, eh bien, on ne peut pas ne pas affronter cet avant-là. Et dans le film, Monsieur Klein, le personnage joué admirablement par Alain Delon, peut-être un de ses plus beaux rôles, eh bien, ce personnage-là va à la rencontre de lui-même en épousant le destin de ceux qu'il estimait être autres que lui. Et je ne vois pas plus grand acte qu'un homme puisse commettre dans l'existence que celui-là. Et ce film est obsédant pour cette raison même. Nous sommes tous des Monsieur Klein.
On va se quitter en restant sur cette question du temps, puisqu'on se quitte vers le futur. The Future, c'est le titre de la chanson de Leonard Cohen que vous nous avez proposé. Pourquoi cette chanson ?
C'est une chanson qui est très ironique. Si l'on écoute bien les paroles, on s'aperçoit que celui qui dit « je »,« I » dans la chanson, c'est le futur lui-même. C'est le futur qui nous parle. Mais quel futur ? The future is murder, comme dit Leonard Cohen. C'est une chanson grave, c'est une chanson d'éveil. Et vous voyez, il ne s'agit pas tellement de monter sur des tribunes et de se draper dans une toge d'intellectuel pour éveiller. Il s'agit parfois d'écouter une chanson.
Alors on l'écoute ?
On l'écoute.
Merci Paul Audy.
Merci à vous.
Écoutez France Culture, les chemins de la philosophie, il est temps de retrouver le journal de la philo, présenté par Géraldine Mostafa-Foy.
On n'est pas là pour philosopher, Carpentier.
Quand même. Incroyable.
Bonjour Géraldine.
Bonjour Adèle, bonjour à toutes et à tous.
Aujourd'hui c'est vendredi et vendredi c'est le jour de votre anti-manuel de philosophie.
Et aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, j'aimerais vous parler d'une injonction mi-philosophique, mi-développement personnel qui, figurez-vous, fait déjà l'objet d'énormément de critiques, j'ai nommé la bienveillance.
Alors la bienveillance, déjà, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est une disposition affective à vouloir le bien des autres et à se réjouir très sincèrement de leur bonheur. C'est quelque chose de très important puisque d'une part, ça nous permet de cultiver des relations positives, profondes, solides avec les gens qui nous entourent. Et puis également, c'est vraiment une des plus belles clés de notre bonheur.
Formule à la guimauve, vision bisounours du monde, dictature des bons sentiments. Dans le monde magique du bien-être, tout n'est pas rose et c'est le cas de la bienveillance. Jugée suspecte, voire hypocrite, taxée d'arrondir les angles au lieu de véritablement prendre soin de l'autre, coupable de vouloir se substituer aux principes politiques de justice, la bienveillance est tombée de son piédestal. En témoigne par exemple le livre d'Yves Michaud contre la bienveillance, paru il y a déjà 3 ans. Elle avait pourtant bien commencé et force est de reconnaître qu'elle ne semble pas complètement oubliée au vu du nombre de vidéos, comme on l'a entendu, d'articles ou de livres sur le sujet. Entre ses détracteurs et ses partisans, et aussi bizarre que cela puisse paraître, la bienveillance serait donc devenue un sujet clivant. Alors évidemment, pas autant que le voile ou l'écologie, mais il faut quand même voir ce que cette pauvre bienveillance se prend. Moi qui voulais la critiquer pour sa bien-pensance, me voilà prise de court par cette attaque en règle d'un énième bon sentiment. Mais au fond, la question se pose. Pourquoi elle, la bienveillance, et pas l'estime de soi, la fragilité ou l'instant présent, tous ces poncifs pseudo-philosophiques pour bien vivre? Pourquoi la bienveillance serait-elle pire qu'autre chose? Y aurait-il une bonne manière de se développer?
Je ne suis pas là pour distribuer les bons points ou les mauvais points. Je ne l'ai jamais fait, je l'ai déjà dit, je crois à la bienveillance en politique.
Emmanuel Macron est l'un des premiers à avoir fait entrer dans l'espace public la bienveillance et à la populariser comme disposition pas seulement inter-individuelle mais politique. On pourrait penser que critiquer la bienveillance revient à critiquer sa récupération politique. C'est le cas, je l'ai cité tout à l'heure, du philosophe Yves Michaud.
La bienveillance conduit à prendre en compte toutes les différences individuelles, que ce soit les dons ou les handicaps. Or, tous les hommes sont extrêmement différents, je veux dire, aussi bien d'origine sociale que de capacité intellectuelle, que de capacité physique, etc. Donc, quand on va jusqu'au bout, si vous voulez, de la considération bienveillante des êtres humains, il y a toujours un côté par lequel ils sont complètement singuliers, et du coup, on pulvérise la notion d'égalité et on pulvérise la notion de communauté.
L'égalité et la communauté pâtiraient de la promotion politique de la bienveillance, d'où sa critique. Mais qu'en est-il des autres? Que reproche-t-on à la bienveillance? J'ai déjà pu citer son côté formel, hypocrite et pas véritablement empathique. On pourrait aussi pointer sa marchandisation qui en fait une valeur commerciale et pas une vertu profonde. Pour ma part, je lui reprocherais de dissimuler derrière une disposition affective à l'égard d'autrui une veille, voire une surveillance d'autrui. Vouloir le bien d'autrui, rien ne me semble plus intrusif et contraire au bien, à son bien, car comment croire que l'on veut le bien d'autrui en le faisant en fait à sa place?
Et est-ce que selon vous, ça justifie autant de haine? Est-ce qu'il y aurait des bons et des mauvais bons sentiments?
Eh bien, je crois qu'à la différence, par exemple, de la fragilité, de l'instant présent ou de l'injonction à positiver, la bienveillance, elle, ne cache pas sa bonne intention, sa vision optimiste. La bienveillance est bienveillante. Elle part d'une bonhomie de l'être humain pour aller vers le bien d'un autre être humain et rien d'autre. Elle ne souligne pas une défaillance humaine comme la vulnérabilité. Elle ne révèle pas notre impuissance face au temps. Elle ne pointe pas nos tendances pessimistes. Non, la bienveillance s'ancre dans le bien, veut le bien, tente le bien, trop de bons sentiments. Ce qui est ainsi paradoxal dans cette attaque de la bienveillance, c'est qu'on la rejette pour ce qu'elle évoque et pas pour ce qu'elle permet ou pas. Elle est le symbole du bon sentiment. Gluant, sucré, écœurant. Mais d'où vient donc cette hypocrisie à se jeter sur le soin par exemple, sur le souci de l'autre, sur l'empathie, l'écoute ou autre, et à rejeter la bienveillance? Eh bien, je crois qu'au-delà de désigner un bouc émissaire, il se joue avec cette critique de la bienveillance le dégoût du bon. Comme je l'ai dit, du sucré, de la guimauve, de l'édulcoré. Bien vivre, prendre soin, pourquoi pas, mais en laissant croire qu'on n'est pas naïf sur la noirceur du monde, sur ses propres failles. Mais pourquoi ne pas assumer un côté cucu, bien pensant, rose, bisounours justement? Je me pose aussi la question à moi, pourquoi toujours s'en prendre au bien pensant, au bien, et ne pas revendiquer son amour de la guimauve?
Alors finalement, vous faites un éloge de la bienveillance, Géraldine?
Eh bien finalement, oui, j'ai changé d'avis.
Quel retournement! Votre chronique est à réécouter en ligne sur le site du Journal de la Philo. Un grand merci à l'équipe des Chemins de la Philosophie qui m'aide chaque jour à préparer cette émission. Aujourd'hui, Manon de la Selle, en compagnie d'Isis Jourda, Jules Barbier, Anaïs Isbert, Thomas Beau qui réalise cette semaine. Théo Gomard qui était la prise de son aujourd'hui. On se retrouve lundi pour une nouvelle série d'émissions. On vous emmènera à la découverte ou à la rencontre de l'école de Francfort. D'ici là, pour réécouter cette émission, rendez-vous sur le site de France Culture, page des Chemins de la Philosophie. Vous pouvez réécouter l'émission en ligne ou bien la télécharger, la podcaster pour l'écouter où vous voulez et quand vous voulez. Vous trouverez par exemple toutes les émissions spéciales Profession Philosophe qu'on vous propose chaque vendredi depuis un an et demi maintenant. Et bien vous pouvez découvrir tous ces portraits, ils sont accessibles autant que vous voulez. Rendez-vous également sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter, Instagram où nous attendons vos remarques et vos commentaires et où nous mettons en ligne quotidiennement l'émission du jour. On se retrouve lundi à 10h. D'ici là, restez à l'écoute sur France Culture.